France Inter, le 13-14.
Bonjour, cher Jean Lebrun. Le temps que Geoffrey Marianne tende son micro, je vous vois marcher dans cette rue de Palestine devant cet immeuble de jaune et de bleu décoré aux couleurs de l'Ukraine. On s'approche d'un autre des lieux importants ici, c'est l'église autocéphale Saint-Simon. Autocéphale, maître Jean, dites-moi tout.
C'est tout simple, Bruno. Les paroisses orthodoxes d'Ukraine, dès la première indépendance, et bien davantage après 91, ont cherché à se réunir pour échapper à l'autorité du patriarcat de Moscou. Et c'est chose qui a été à peu près réussie à partir de 2018-2019, grâce à la reconnaissance du patriarche de Constantinople. Ces églises indépendantes de Moscou sont réunies sous l'autorité d'un métropolite qui s'appelle Épiphane.
Il sait tout. En tout cas, église orthodoxe, donc indépendante de Moscou. 18 000 Ukrainiens en France. Votre vif de l'histoire, Jean Lebrun, est consacré aujourd'hui à la diaspora ukrainienne. Je le disais, ils sont 18 000 qui ont un titre de séjour aujourd'hui en France.
Oui, ce sont des chiffres un peu dérisoires par rapport à tous ceux que vous avez évoqués depuis le début du journal. Elle a commencé cette diaspora modestement, après les pogroms de 1905 et la révolution inaboutie. Et puis elle a pris une importance évidemment beaucoup plus grande après 1919-1920, mais on ne peut pas la distinguer aisément de l'immigration russe, puisque les autorités françaises, et pas davantage ce qu'on appelait l'organisation Nansen qui distribuait des passeports pour les apatrides, ne faisait la différence entre Russes et Ukrainiens, peut-être entre 20 et 40, 40 000 Ukrainiens.
Tiens, on va rentrer un petit peu dans les locaux parce que on s'est mis dans la rue, il y a pas mal de travaux. Le lendemain de la guerre, on manquait de main-d'œuvre industrielle.
Oui, alors ces Ukrainiens sont arrivés via la Pologne.
Oui.
La Pologne qui était moins accueillante qu'aujourd'hui, elle n'avait pas les mêmes dimensions géographiques, elle avait mordu sur l'actuelle Ukraine occidentale, les soldats et les officiers de l'armée ukrainienne indépendantiste.
Oui.
Donc ils ne sont pas restés beaucoup dans les camps polonais et un certain nombre ont cherché à venir en France. Alors c'était des nationalistes, mais pas seulement. On parle tous les jours de Makhno, le fameux anarchiste. Hein, vous vous souvenez de la chanson « Mes drapeaux sont noirs de nos peines, rouges de notre sang ». Sa compagne travaillait dans une fabrique de chaussures. Lui, il a fini dans la pauvreté à l'hôpital Tenon. D'autres ouvriers se sont regroupés très nombreux près de Montargis, dans le Loiret, dans une usine de caoutchouc, Hutchinson, qui fabriquait les bottes à la marque de l'aigle. Deng Xiaoping, le chinois, avait travaillé là. Et ils ont été peut-être 2000 avec leur café, leur maison commune. De ces bâtiments généralement construits en bois, ben, il ne reste pas grand-chose. Mais deux petites églises subsistent. Une église orthodoxe,
oui,
comme celle où nous sommes,
oui,
et puis une église gréco-catholique. Mais je ne veux pas compliquer les choses, parce que c'est une terre d'écuménisme, d'une certaine manière, l'Ukraine, avec beaucoup de religions. Et là, il y a un monument en pierre au grand poète national Shevchenko,
oui,
qu'on cite tous les jours et qui avait écrit au 19e, Ukrainien, cherche où est ton destin. Il est parti droit devant lui. Tu es maintenant au bord, tandis que joue la mer. Les goélands volent vers l'autre rive.
Alors là, il y a un peu d'écho parce qu'on est tout près de l'église.
C'est outre-Atlantique. On entre ?
Non, on n'entre pas parce que je pense que l'écho, ça va être compliqué.
Ah bon ? On ne va pas entendre les goélands alors ?
Non, on ne va pas.
C'est vers l'autre côté de l'Atlantique que les Ukrainiens ont été très nombreux à se rendre. Les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud aussi, hein, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, où il y a eu tout de suite des manifestations contre l'invasion de Poutine. Et si on s'arrête un instant sur les Canadiens, les Ukrainiens ont une dilection pour le Canada. Il y avait des organisations qui permettaient le passage pendant l'entre-deux-guerres jusqu'à la crise de 1929, où du coup la France a repris un peu meilleur visage. Mais dans les années 1930, la diaspora ukrainienne est 10 fois moins nombreuse que dans les années 1920.
Et un tout petit mot, la diaspora en France, elle venait de Pologne, notamment les dernières décennies.
Oui. Et la diaspora, elle est toujours susceptible de rentrer. C'est la question que posait votre invité de France, Terre d'Asile. On l'a même vu, mais est-ce que c'est anecdotique, des Russes et des Ukrainiens, après la Deuxième Guerre mondiale, séduits par Staline, et qui revenaient en URSS pour participer au combat. Ils croyaient prolonger les combats de la libération contre les nazis. C'était pas un choix judicieux. Beaucoup ont été mis en camp. L'exil ne s'interrompt jamais, Bruno.
Jean Lebrun, quasiment en impro sur cette diaspora ukrainienne dans la rue de Palestine, ici, où nous étions depuis 13h. France Inter.